La méditation. On vient de Rome, la congrégation, pour l'évangélisation des peuples. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Le feu que Jésus est venu apporter sur la terre, d'une manière évidente à son baptême. Son baptême va avoir lieu. Quand son baptême donc aura lieu, c'est-à-dire sa passion, le feu qu'il est venu apporter, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, s'allumera. C'est par ces mots que sont deux images rhétoriques que Jésus décrit le mystère de la Pâque et le fruit qu'il apporte parmi nous. Jean-Baptiste, en effet, avait annoncé que celui qui allait venir était plus puissant que lui. Quelqu'un dont il n'était même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et que si lui, Jean-Baptiste, baptisait avec l'eau, c'était pour préparer la voie au Seigneur, pour inviter les personnes au repentir et à la conversion. Alors, le Fils du Très-Haut devait venir pour baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Baptiser dans l'Esprit Saint. Baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Afin que toute créature voie le salut de Dieu et ses merveilles. La réalisation de cette promesse est décrite par saint Luc dans les Actes des Apôtres, avec le récit de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, dont Pascal, est descendu sur l'Église, sous forme de feu, en langue. Il est descendu sur l'Église, et a revêti l'Église d'une force prophétique. Il a fait de l'Église la source de l'évangélisation des peuples et de sa mission surnaturelle sur la terre. Sa mission évangélisatrice. Toute la vie de Jésus chrétienne aussi finalement c'était une vie sur la terre. C'est une vie d'angoisse. Quelle angoisse est la mienne, continuellement, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et avec cette angoisse, et il y a un côté lancinant dans l'angoisse. Il y a un côté, il n'y a pas d'angoisse s'il n'y a pas de peur et de ténèbres en même temps, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre. Quand le mal est là, mais que s'impose à nous, et qui fait peur, parce que on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Et il est le contraire de la paix, alors qu'on aspire. Et que le Saint-Esprit, lui, ben, il vient s'il vient fondre sur nous, c'est pour nous donner, comment dirais-je, les premières gouttes, les premiers germes. De ce qu'il y a après la Pâque, après le baptême, par lequel on doit passer dans l'angoisse, parce que pour la vie chrétienne, la vie de Jésus, c'est une vie, c'est sûr, sur la terre, nous avons une vie d'espérance. On espère la paix, on reçoit la paix, parce qu'on l'espère, mais elle n'est pas là. Et on est dans l'angoisse parce que même ce qui est le plus intime en nous, et ceux qui nous sont les plus proches et les plus intimes sont, et les événements de notre proximité, au fond, vivantes, sont des sources. C'est plus que des sources d'inquiétude, c'est des sources de... C'est une espèce de grondement d'orage. Et cet orage ressemble à... ressemble à l'angoisse. Et si l'angoisse est là, c'est parce que toute la vie du Christ, toute la vie chrétienne, c'est la croix et la martyre. Et on est... au centuple, bien plus sensible que ceux qui ont livré leurs membres au péché. Parce que là, quand tu livres, comme dit l'épître aux Romains d'aujourd'hui, tous tes membres au péché, ben, tu vas vers la perdition et le désordre. Et ça, ça ne produit pas l'angoisse. Ça produit une certaine tristesse, mais ça ne produit pas l'angoisse. Ça peut à la rigueur produire une certaine honte mêlée de tristesse. Parce que l'espérance, quand on livre ses membres, sa chair, son sang, son temps, son corps, lorsque Jésus livre son humanité incarnée, il la livre à l'angoisse de l'agonie. Et ça se traduit en nous par une espérance inconditionnelle, ce qui doit être de plus en plus pauvre. Et du coup, parce qu'elle dure, parce qu'elle est incarnée, parce qu'elle devient un témoignage, elle devient une avancée elle devient une avancée une profonde avancée à travers la mer rouge, à travers le désert, à travers la terre promise, une avancée vers l'évangélisation des multitudes. Et on pousse la masse énorme de l'orage de la damnation des multitudes. Parce qu'on les pousse devant nous comme une espèce d'énorme gigantesque bulldozer. On les pousse devant nous. Et ça, ça ne peut pas. Ça peut pas. On n'est pas en paix. Lorsqu'on est comme ça, lorsque Jésus et nous, lorsque les membres vivants de Jésus vivant sont portés par la rosée de la divinité intime et profonde du Verbe de Dieu. Parce que l'espérance, c'est ça. Quel baptême nous allons recevoir. Nous devons recevoir ce baptême, le baptême de la Pâque. On doit faire ce passage, l'Église doit faire ce passage en prenant sur elle les impressions angoissées et incompréhensibles de la damnation de l'humanité, de nos proches, de nous-mêmes. Cet état-là de souffrance, de langueur, d'amertume, il faut le dire, il faut mettre un mot dessus. C'est une angoisse. C'est l'angoisse des temps. Et j'allais dire, est normal parce que nous ne sommes pas des saints. Parce que nous ne sommes pas dans la sainteté, non pas livrés entièrement. Nous ne sommes pas dépouillés. Il y a une liberté totale que nous n'avons pas. Nous n'avons pas le vol de la colombe. Le jour où on meurt, oui, d'accord, on lâche tout, ça va. Mais c'est trop tard. Il aurait fallu tout lâcher avant. Il aurait fallu évangéliser toutes les multitudes des peuples avant notre dormition, avant notre dernière tardement de la terre. Mais comme il y a encore un petit, pas seulement le point d'orgueil, il y a le point d'angoisse, et le point d'angoisse il est lié au fait que la souffrance de notre vie chrétienne, de notre vie sur la terre, dépasse de très 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 loin en ressenti, c'est-à-dire dans le point de vue charnel, les impressions de la joie et de l'allégresse, de la grâce. Ça n'empêche pas l'allégresse de la grâce de s'y couver dedans comme une sourde présence immensément petite, mais en dessous, parce que c'est elle qui fait avancer quand même. Mais si elle angoisse, c'est facile à comprendre pourquoi. C'est parce que nous n'avons pas tout donné. Nous n'avons pas encore tout donné. Il y a encore une division. Notre monde intérieur, dans l'Église, dans le corps mystique de Jésus, il y a de l'ivraie. On reste attaché. nos frères, nos sœurs, nos pères, nos, la belle-mère, nos filles. Et ils sont là pour envahir aussi eux-mêmes par la passion, le feu et l'angoisse amoureuse de Jésus crucifié qui souffre à l'intérieur d'eux sa passion. Cette angoisse ne s'arrête pas. Cette angoisse, tu ne pouvais pas l'empêcher parce que Jésus a vécu Gethsémani, a vécu cette angoisse d'une manière essentielle. Depuis sa conception. Et jusque dans la croix glorieuse. Et il a établi une économie divine dans le passage qu'il fait d'amour dans tous ses membres, par la médiation de Marie, mère de l'Église, par la médiation de Marie, médiatrice de toutes les grâces. Il veut former sa propre vie divine dans ceux qui ont la grâce. Et la participation à la grâce, bien sûr, elle s'accompagne d'une sourde joie et d'une certitude de l'espérance, mais est une participation quand même à la croix, d'une part. Et donc, non seulement il y a cette angoisse que nous soyons, que nous puissions arriver au mariage spirituel de l'accomplissement en pleine titre reçu de la fin de la Jérusalem dernière, mais il y a aussi une participation à la vie divine de Jésus dans sa chair. Et la vie divine de Jésus dans sa chair, c'est cette angoisse. C'est sûr. Une fois que tout est accompli, une fois qu'il n'y a plus un seul soupir, une seule respiration, une fois qu'il n'y a plus que l'adormition, et que pour le temps de la terre c'est terminé, c'est sûr, le feu, à ce moment-là, du Saint-Esprit peut se fondre et se conjoindre. S'il n'y avait pas ce feu, les torrents de la Pâque, les torrents du baptême de Jésus seraient évidemment totalement insupportables. Ils le sont insupportables. Mais ils sont portés par un amour très, 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 qui vient fondre en nous, qui apporte avec lui, et qui apporte avec lui, non pas la disparition de l'angoisse, pas du tout, et de la Gethsémani, et la participation vivante, lumineuse et torrentielle à la croix de Jésus. Jésus, il a inventé, j'allais dire, ce royaume de l'amour de l'Église qui doit être mené à ce pensal, participer à l'évangélisation et à la suppression de la damnation dans la nature humaine tout entière. Il a inventé ce chemin qui est le sien, par lequel il vient pénétrer jusqu'à la fin du monde tous ces membres vivants, de cette même angoisse que tout soit accompli. Mais il donne que ce feu, au fond, que ce feu soit allumé sur la terre, c'est-à-dire dans l'incarnation de notre chair. Le Saint-Esprit, s'il pouvait descendre dans l'incarnation de notre chair, dans l'espérance accomplie. Et il a tracé une ligne pure où lui-même peut s'écouler en nous, et même s'il est agneau de Dieu, Dieu vivant, assis à la droite de Dieu le Père, dans l'admirable ascension d'une jubilation sans limite et sans fin. Bon. En même temps, il s'écoule merveilleusement en nous. Une fontaine d'eau vive de sa propre vie divine dans l'incarnation de la terre. Et il est en agonie jusqu'à la fin du monde à travers, grâce grâce à Marie, hein, grâce à l'Immaculée, grâce à Saint-Joseph. Parce qu'ils viennent faire écouler sur la terre une nature humaine rédemptrice. Ils font écouler de leur fécondité goutte à goutte et en chacun de nous. Une vie surnaturelle, divine. Transformatrice surnaturellement et divinement de la nature humaine entière. Nous sommes les calices. Cette chevauchée admirable dans le combat n'enlève pas l'angoisse, c'est évident. Quelquefois c'est très très lourd. Mais si on voyait que la vie chrétienne, c'est une cavalerie légère, continuelle de colombes, qui ne cesse de circuler dans un diaphane toujours plus intensifié de paix et d'allégresse, c'est que ce serait une autre religion. C'est la religion, le lien que nous avons avec Jésus, c'est un lien physique, incarné, dans le flux et le reflux vivant d'une aspiration continuelle. Une participation à la croix glorieuse. Et même dans la croix glorieuse, Jésus est envahi par la vision de la lumière de gloire, à tel point qu'il envahit toute l'âme de Saint-Joseph, son père, en même temps. Quoi. Ah, si ça pouvait durer, si ça pouvait durer, si ça pouvait durer des millénaires, cette lumière de gloire envahissant leur âme, si ça pouvait durer des millénaires, et des millénaires. Oui, mais cette lumière de gloire, elle traverse sans la faire disparaître le mystère de compassion. Elle vient, pour ainsi dire, passer à travers elle, l'assimiler et la communiquer dans la transactuation de la présence réelle de Jésus vivant jusqu'à la fin du monde. C'est à travers la division. C'est à travers la division la plus intime que la grâce chrétienne fait son chemin, mais elle avance inexorablement. Elle avance vers son accomplissement, elle avance jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse, et même dans l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse. Parce qu'on pourra s'engloutir et voler, et courir dans l'Esprit Saint qui vient fondre sur nous, dans les torrents immaculés du ciel descendant en nous dans toute sa paix. Ça ne peut pas, ça ne supprimera pas l'angoisse. Ça ne supprimera pas la Gethsémani. Ça ne supprimera pas le travail de la compassion. De la compassion surnaturelle, de la compassion immaculée, de la compassion sanctissime, qui est quelque chose qui est plus que la miséricorde, parce que la miséricorde, ancrée de Dieu, trouve son incarnation dans cette... dans ses larmes, embrasées de la crucifixion de l'innocence de la nature humaine tout entière. Et nous avons entendu, nous avons vu qu'il fallait dire oui à cette avancée de la nature humaine tout entière, cette avancée du Christ vivant en nous. Ces derniers instants d'accomplissement. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Je parle de cette souffrance intérieure. Il ne faut pas avoir peur de cette souffrance. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance de l'angoisse de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas avoir, être encore le récepteur incarné, surabondant et victorieux d'une grâce victorieuse de tous les attachements à, de tous les attachements à la damnation. Et les âmes sont dans la perdition. Même les âmes chrétiennes, évidemment, elles ont cette montagne, cette odeur lancinante de la perdition éternelle en eux. Parce que nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Pas encore. Nous sommes des saints, oui, mais en même temps, nous ne le sommes pas. C'est à cause de nos revendications. Notre revendication, la revendication de la damnation, c'est dire nous voulons bien aller au ciel, à condition qu'on n'ait rien à faire. À condition qu'il n'y ait aucune participation à la vie divine et au mystère de compassion, à condition que tout aille bien, à condition que ce soit, pour ainsi dire, la joie parfaite, mais la joie parfaite, c'est le feu d'amour qui est en nous et qui nous lie les uns aux autres dans cette avancée irrésistible vers le mariage spirituel de l'Église tout entière. Et tant qu'il y aura pas, de manière presque palpable, cette avancée irrésistible de ce feu qui nous lie les uns les autres dans l'accomplissement de cette avancée de l'Église tout entière, eh bien, il y aura toujours cette angoisse que tout, que ce feu ne soit, n'embrase le corps spirituel et le corps vivant, et le corps originel et le corps accompli de la nature humaine tout entière. C'est vrai. De toute façon, la damnation, les âmes damnées, les âmes perdues en perdition, ne peuvent plus rien faire. Leur paralysie est totale. C'est la différence qu'il y a entre l'Église et les autres portions de l'humanité. C'est pas que dans l'Église on soit plus parfait et plus excellent que les hommes. Mais il y a quand même une différence. Et cette différence, c'est cette participation à la croix, c'est cette participation à la rédemption universelle et accomplie dans le monde entier. Dans chaque pas que nous faisons, nous ne tenons pas compte de la lourdeur, de l'angoisse que ça représente, et de la souffrance que ça. Parce que nous avançons quand même dans le fruit du sacrement. Avec Marie, Marie engendre Dieu lui-même en nous, dans notre chair, disant oui. Et la différence qu'il y a entre nous et la perdition, les âmes qui sont perdues, qui sont dans la perdition, eh ben, elles sont entièrement paralysées. Elles ne peuvent pas adorer. Elles ne peuvent pas participer à la joie de Dieu le Père, de créer et de redonner son amour et sa grâce. Elles ne peuvent pas embrasser Jésus. Elles n'ont aucun geste, aucun acte, aucune force, aucune vie, aucune respiration, aucune, rien, aucun parfum intérieur. Ils ne peuvent pas. La paralysie est totale. Elles sont mortes absolument sur le plan de la vie humaine et de la vie surtout divine, sur le plan de l'amour, sur le plan de l'amour invincible dans la lumière. Elles ne peuvent plus faire un seul acte de foi, elles ne peuvent plus faire un seul acte d'illumination des mystères de Dieu dans la nature, mais elles ne peuvent plus faire le pont avec tous les autres. Et la mort, c'est une âme qui est dans la perdition, est totalement morte. Elle ne peut plus rien faire. Mais une âme qui n'est pas dans la perdition, elle ressent bien sûr cette paralysie de l'accomplissement et de la perfection divine en elle. Mais elle va dans toutes les âmes qui sont dans la perdition. Elle suit Jésus partout où il va. Elle suit l'agneau partout où il va. Et il va dans les âmes en perdition. Et l'Église, elle va dans chaque âme en perdition. Et elle va faire à sa place des actes d'adoration, des actes d'union, des actes d'espérance, des actes d'illumination de la vie surnaturelle dans le moindre parcelle de la matière vivante qui existe sur la terre et dans les cieux à travers, en le faisant à leur place et en communion avec elle, et à travers elle, et en elle. Elle a ce partage de l'angoisse de Jésus. Quelle angoisse, c'est la mienne. Que ce feu sur la terre soit allumé. Quelle angoisse. Jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. La vertu de charité se mêle forcément brûlante à celle de l'espérance, parce que l'espérance fait que on a quand même une petite goutte de paix et de joie profonde qui vient sourdre en dessous de nous pour nous faire décoller toujours et continuer sans nous arrêter, parce qu'on est en train de toucher la fin. C'est le monde de nouveau, c'est le monde d'amour, et que vienne le jour d'amour, de justice et de...